Mes chers fils, prenez soin les uns des autres, prenez financièrement soin de l'armée, et le reste prendra soin de lui-même. Tels sont les derniers mots de l'empereur noir africain Septimus Severus sur son lit de mort. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Aujourd'hui, notre émission, notre show est intitulé « La guerre des cinq empereurs ». Dans l'erratum que nous avons fait la fois passée, nous avons parlé de Septimus Severus, autrement appelé Septime Sévère, et nous avons jugé bon de l'introduire dans notre émission d'aujourd'hui, car il y a une suite logique par rapport au développement de l'émission précédente, où nous avons largement parlé de Zénon de Kition. Zénon de Kition, grand philosophe phénicien, qui était déjà une province très divers, car nous avons parlé à plusieurs reprises de la diversité de ces régions qui sont liées aux populations africaines, car les régions de Canaan, de la Palestine, de la Phénicie sont liées à l'Afrique, qui était une province, c'est-à-dire ces régions-là que nous avons citées étaient des provinces égyptiennes qui étaient colonisées ou administrées par elles, et nous savons même que dans les récits des anciens, on lit Canaan, la Phénicie, aux peuples africains, aux peuples de Cam, et c'était déjà une idée bien connue. Et les textes, dont ceux de Diogène Laërce, appuient le phénotype noir africain, du moins, de Zénon de Kition, qui était ce grand philosophe dont les récits divulguent la pensée, c'est-à-dire dans le stoïcisme. Nous disions donc que Zénon de Kition, sa pensée, le stoïcisme, a grandement influencé un empereur romain très célèbre au nom de Marc Aurèle, grand empereur romain devant l'Éternel, permettez-moi l'expression, et ou du moins devant Jupiter, ça serait beaucoup plus à propos. Ce Marc Aurèle donc va diriger d'une main de fer la Rome antique et va enfanter Commode. Et juste pour la petite histoire, c'est un peu ce qui a inspiré le fameux film Gladiator avec Russell Crowe. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de libertés prises dans ce scénario-là. Marc Aurèle était le général, l'empereur du début. Commode était le fameux vilain du film, son fils. Et ensuite, il y a eu le Gladiateur. Bon, évidemment, ce qui a suivi après, c'était Hollywood. Mais c'est un peu ce qui ils sont un peu inspirés de l'histoire romaine et évidemment ajoutés avec de la fiction. Donc, nous disions que Commode était donc ce personnage-là, interprété par Joachim Phoenix, un personnage assez tyrannique, qui au contraire avait une attitude différente de son père. Son père était, comme nous l'avons dit, très discipliné, c'est-à-dire affilié et attiré et un élève et un disciple du stoïcisme, créé par Zénon de Kition, ce savant noir, si on peut dire ça. Commode, lui, par contre, va dans une autre direction et ne s'aligne pas sur cet angle de son père qui était plutôt discipliné, qui avait une philosophie plutôt stoïcienne. Lui est plutôt fougueux, il est plutôt émotionnel, il est plutôt dictatorial, même si son père l'était aussi, hein, à bien des égards, mais il est plutôt cruel, un peu comme on a voulu le montrer dans le film que j'ai cité tout à l'heure. Sa politique ne plaira pas, notamment aux sénateurs, notamment à l'armée. Et la nuit du nouvel an, en 193, il sera étranglé, assassiné, suffoquant, étouffant, par des mains musclées, par des mains ne voulant plus du souffle de vie de cet empereur sous les cieux romains. C'est alors que commence la grande ère, en 193, que l'on appelle la guerre des cinq empereurs ou l'année des cinq empereurs. En 193 après Jésus-Christ commence donc une année difficile, une année sombre, car nous l'avons dit, Commode a été assassiné en le jour du nouvel an. L'année commence de manière sombre, un peu comme maintenant, nous sommes en 2020 et l'affaire du coronavirus qui met la planète à genoux, s'il faut le dire, bien que notre esprit doit être plus fort que ça, nous invitons tout le monde à la prévention. L'année 193 commence donc de manière assez sombre, car l'empereur est assassiné. Il y a le trouble dans tout l'empire romain qui, à ce moment, il faut comprendre, une grande partie de l'Europe, du bassin méditerranéen, de l'Afrique du Nord. Et pour comprendre et placer le décor à cette époque, nous devons imaginer une Rome très diverse. C'est ce qu'on appelle, en fait, par les experts, la Rome africaine, car beaucoup de prétendants au trône, beaucoup de généraux venaient d'Afrique en ce moment. Et la période mauresque va déjà connaître ses balbutiements à ces périodes-là, car il y a beaucoup de transactions, de commerce dans le bassin méditerranéen, et des populations noires se baladent à Rome de manière tout à fait naturelle, ce qui serait étonnant pour certaines personnes de voir qu'il y avait déjà ce mélange, ce brassage de cultures, car nous avons déjà parlé ici de bien plus de environ 1000 ans avant cette époque-là, au niveau de l'ancienne Égypte, il y avait déjà ce brassage de cultures que l'on voyait. Il y avait beaucoup de commerce entre le bassin méditerranéen. Donc, l'image selon laquelle les Africains n'ont été entre guillemets découverts qu'avec les explorateurs est tout à fait faux. Et nous allons aussi mentionner le fait que, car nous sommes toujours dans le placage du décor ici, pour bien imaginer ce que l'on dit ici, car c'est une histoire africaine que nous sommes en train de conter et relater. Nous devons pour mettre l'ambiance, pour placer le décor dans les esprits, nous allons citer Sarah Bond, qui est un professeur en art, qui dit que lorsque l'on analyse les pigments qui sont sur les fresques ou du moins les statues de la Rome antique du bassin méditerranéen, beaucoup sont de marbre blanc, nous le savons, comme la Vénus de Milo et beaucoup d'autres œuvres que nous connaissons. Mais bien de ces œuvres n'étaient pas immaculées telles que nous les connaissons. Beaucoup d'entre ces œuvres étaient pleines de couleurs. Et malheureusement, avec le temps, ces couleurs ont disparu. Par exemple, si il faut revenir à l'Égypte que nous aimons bien, l'hypostyle de Karnak, dont je parlerai bientôt. Bon, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse avant que je n'oublie. Nous allons donc ouvrir cette parenthèse en parlant de l'hypostyle de Karnak. Car nous disions que l'hypostyle de Karnak, il faut se dire, est cette espèce de temple que l'on a en ancienne Égypte, que vous connaissez certainement, qu'on montre beaucoup dans les documentaires, où il y a l'espèce de piliers successifs, majestueux, grandioses, qui se suivent. C'est très en vogue dans les documentaires et dans les images touristiques sur l'Égypte. C'est un des lieux les plus visités. Cet hypostyle était coloré à l'époque. Malheureusement, maintenant, quand on le voit, on voit ces hypostyles, c'est-à-dire cette salle-là, ces piliers qui se suivent, ces piliers faits de pierre, c'est assez majestueux quand on le voit dans les médias. Ces piliers étaient en couleur à l'époque. Malheureusement, elles ont perdu leur belle couleur. Elles ne sont plus que des pierres, des amas de pierres que l'on voit toujours majestueuses, mais elles n'ont plus leur couleur. C'est dans les représentations 3D que l'on peut revoir à quoi elles ressemblaient à l'époque. Alors, la parenthèse qu'on voulait ouvrir, ce n'est pas seulement de dire que ces hypostyles, ces grands piliers majestueux de l'Égypte avaient des couleurs, mais c'est aussi pour amener un point, car lorsque nous parlons de ces choses de l'histoire africaine, il y a beaucoup d'éléments que nous allons apporter qui sont surprenants, surtout lorsqu'on les découvre pour la première fois. Et le problème est que lorsqu'on en parle, la nouveauté de ces informations nous paraît aberrant. Pourquoi? Parce que nous comparons ces informations du passé à la réalité que nous voyons présentement, et surtout cette réalité que certains médias veulent nous montrer. Et nous comparons donc une certaine médiocrité que nous pouvons voir par rapport à l'excellence du passé, et on trouve que c'est incohérent, que ça ne concorde pas. D'où certains vont dire « Non, ce que vous dites c'est bien beau, mais on ne voit pas les résultats. » Parce que dans notre esprit, dans notre compréhension, nous pensons que la richesse, le succès sont des acquis, que lorsqu'on les possède, elles ne peuvent pas nous fausser compagnie. Et ça se traduit par le fait, lorsque nous voyons une célébrité à la télévision qui vieillit, admettons une célébrité que nous connaissions, un acteur, une actrice que nous admirions quand nous étions jeunes, et plusieurs années après, lorsque nous voyons la personne vieillir, nous sommes toujours étonnés. Oh, mais elle a vieilli. Et nous sommes toujours surpris par ça. Et le fil du temps nous échappe. Nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas toujours notre propre mortalité ou le fait que les choses sont éphémères. Et par exemple, on parle de la malédiction du loto, où ceux qui gagnent du loto deviennent difficilement riches. Vous pouvez prendre le fameux magazine Forbes et de voir la liste des personnes les plus riches au monde. Je ne pense pas que les 10 ou les 20 premières personnes ont gagné au loto. Mais pourquoi ces millionnaires, en un éclair, ne sont pas dans cette liste de personnes les plus riches? Beaucoup perdent tout cet argent. Donc nous pensons souvent que la richesse est éternelle alors que ce ne l'est pas. Les empires, les royaumes périssent et périront. C'est ce que l'histoire nous apprend. Et beaucoup justement par rapport à ça disent, mais pourquoi, si les Africains étaient réellement ces anciens Égyptiens, mais pourquoi ne voyons-t-on pas les choses, ces mêmes choses beaucoup plus au sud? D'abord, de un, on les voit comme en Mpumalanga ou comme dans le grand Zimbabwe, et beaucoup de royaumes même ont été en Afrique subsaharienne, ont été détruits. Et on oublie que même Kerma, l'Égypte ancienne a été, et Kerma, hein, c'est-à-dire le Soudan, d'où venaient les anciens Égyptiens, d'après les égyptologues eux-mêmes, était et construit à des pyramides là-bas. On voit des pyramides, il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Et beaucoup qui refusent cette réalité africaine n'ont jamais lu les rapports du colloque du Caire de 1974 qui a défini réellement que l'ancienne Égypte était une culture africaine, car on peut s'évertuer à montrer des phénotypes étrangers, ce qui est très difficile de montrer un phénotype étranger entre le prédynastique et la 12e dynastie avant que les Hyksos n'arrivent, et entre la 18e dynastie et entre la 18e dynastie, parce que vers la déjà 12e, 13e, 14e, 15e, surtout 15e et 16e dynastie, il y avait des Hyksos qui étaient entrés, les envahisseurs. Mais vers la 18e dynastie surtout, c'est là où les Africains reprennent encore leur terre, le pouvoir. Et il est difficile de trouver des pharaons. Et même pendant la 17e, la 15e, 16e, 17e, où il y a des Hyksos, les Égyptiens avaient pris, je ne sais pas si je dois dire, le soin, ou du moins s'étaient insurgés contre ce leadership-là. Car il faut se dire que lorsque le nord avait été envahi par les Hyksos, au sud, les successions de pharaons se faisaient toujours. Donc on ne peut pas forcément dire que les 15e, 14e, 13e dynastie étaient absolument Hyksos, parce que les successions au sud se faisaient toujours. Mais il est difficile de retrouver la documentation des invasions Hyksos pendant cette période. On sait qu'ils sont venus, c'est documenté, mais leurs règnes comme tels ont été détruits. C'est difficile de trouver des autres envahisseurs en position de roi, de leadership avec les attributs égyptiens dans les fresques ou dans l'iconographie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est assez difficile parce que les Égyptiens considéraient qu'ils avaient été envahis pendant cette période-là. Donc, c'est très difficile de trouver cette iconographie-là. Donc, en Afrique, il y a cette représentation, en Afrique subsaharienne, il y a cette représentation de la culture égyptienne. Et comme je disais, avec le colloque du Caire et avec le fameux livre écrit par l'UNESCO, ou du moins commandé par l'UNESCO, édité par l'UNESCO, l'histoire de l'Afrique, l'histoire générale de l'Afrique, eh bien on voit très bien, on nous présente cette africanité de l'ancienne Égypte. Et même au colloque du Caire, des grands égyptologues comme le fameux Jean Leclan, qui est un français, un grand égyptologue français, qui dit très bien, et d'autres égyptologues, j'ai pas envie de mêler les pinceaux, avec les noms, mais du moins Leclan et d'autres grands égyptologues ont bien dit que les anciens Égyptiens, par leur pensée, par leur comportement, par leur tempérament, étaient vraiment africains. Ils disent que c'est dans les masques africains qu'il faut chercher le tempérament, le comportement, la culture égyptienne. Et c'est ce qui frustre les gens, car lorsque les gens veulent essayer de montrer des faux rapports qui montre des ADN selon laquelle cet ADN prouve qu'ils étaient des berbères ou c'était des Européens et autres, des analyses qui sont fausses, car c'est souvent des analyses qui sont faites sur des momies, sur 2, 3, 4 momies, ou des momies qui viennent du nord ou de la période des Hyksos, mais non pas dans le sud où la plupart des pharaons étaient enterrés, autochtones. Ces études-là sont menées au grand jour pour dire, oh, finalement, ils étaient étrangers. Mais pourquoi, que diable, pourquoi s'ingéniait-il à être dans le paradigme africain, dans une pensée africaine, car la pensée africaine, elle est différente de la pensée des autres? Pourquoi cette pensée culturelle africaine qui est là, qui est restée dans ce milieu-là? Ça, ce sont des arguments qui sont inattaquables et devant lesquels la manipulation échoue lamentablement. Nous étions donc dans l'hypostyle de Karnak, si vous nous suivez toujours très bien. Nous disions que l'hypostyle de Karnak, lorsqu'on essaie de comprendre l'origine, car dans la 18e dynastie, lorsque les Hyksos ont été repoussés, il y a un renouveau de l'art africain, Et c'est à ce moment, par exemple, avec Hatshepsut, où elle commande une expédition au pays de Poun. Ce pays de Poun, c'est-à-dire c'est Poto, hein, c'est Mputu, hein, c'est-à-dire au niveau du centre de l'Afrique ou dans les côtes, car c'est de là qu'il venait. Et je tiens à rappeler que lorsque, par exemple, en Lingala, au Congo, on dit Poto, hein, quand vous allez au nord en Europe, on dit Nakeina Poto, donc je vais en Europe, Poto ou Mputu. Poto Mputu, c'est ça, là, c'est la translittération du pays de Punt. Le pays de Punt, c'est de là où les anciens Égyptiens venaient, c'est le pays, le berceau de leur origine. Punt, on le retrouve dans la Bible, par exemple, lorsqu'on parle de Cam, on dit Cam avait quatre fils, Mitzraïm, Cush, Punt et Canaan. Nous rappelons que ce sont des images, ce sont des paradigmes, ce sont des manières pour illustrer les populations africaines. Et pour les anciens Égyptiens, le plus vieux d'entre ces personnages-là, c'est Punt, curieusement. Et Punt, ça se translittère par Mputu, d'où le pays des dieux. Voilà pourquoi cette région-là est appelée la terre de Dieu, le Tanéger. Nous en avons déjà parlé ici longuement lorsque nous parlions de l'émission Mundele. Donc, les Ndele ou les Bandele ou les Bendele ou les Ebandeli sont ceux-là qui viennent de ce territoire-là, qui viennent avec des drapeaux lorsqu'ils sont allés à la conquête du Nord. Parce que le drapeau, c'est Bendele. Et la matière qui permet de faire ces bendeles-là, on appelle ça ndele. Voilà pourquoi on dit en lingala, par exemple, ndaku yandele. C'est-à-dire, on prenait ces fibres-là pour faire les toits des maisons. Donc, ces gens-là venaient du pays de Punt. Et de ce pays de Punt, c'est là où Hatshepsut, la reine Hatshepsut, la reine qui a dirigé l'Égypte à cette époque-là, vers la 18e dynastie, a envoyé des expéditions pour prendre pour être en contact avec les ancêtres, car elle voulait légitimer son pouvoir. Elle était une femme, et dirigeait être pharaon, c'est-à-dire que c'était une femme, mais elle se disait qu'elle était pharaon, qu'elle était un homme. Donc elle avait besoin de la légitimité des ancêtres pour asseoir son pouvoir et aussi de renouer le commerce avec les ancêtres. Et on peut penser peut-être qu'à cette époque-là que eh bien beaucoup d'idées africaines ont encore réémergé vers l'Égypte, car elle avait été asservie par des étrangers et il fallait rebooster le contexte culturel ou ancestral de la terre d'Égypte, beaucoup mieux connue sous le nom de Tameri, hein, Tameri, Emer, Meri ou Mere, c'est ce que ça signifie, la Ou, le pays de la Ou, et vous connaissez la connexion avec l'Afrique centrale, comme le pays, le Congo, Congo ça signifie Ou, donc le Congo ça signifie aussi la bien-aimée, hein, rassembler, réunir autour d'un l'arc-en-ciel, c'est la même idée qu'on a aussi en Égypte, avec Meri, le même mot signifie amour, le même mot signifie aussi la Ou, on en a déjà parlé, mais vous savez, il faut toujours répéter, pour que on s'habitue avec ces concepts-là. Donc, lorsque Hatshepsut envoie des émissaires au niveau du pays de Punt, il ramène cette culture qu'il y avait là-bas. Beaucoup d'échanges culturels se font. Et voilà pourquoi il y a une renaissance au niveau artistique dans la Taméri, c'est-à-dire Kemet, c'est-à-dire le pays d'Égypte. Et parmi ces éléments, car si vous nous suivez toujours très bien, on veut expliquer l'hypostyle. On est toujours dans cette grande parenthèse que nous avons commencé. Rassurez-vous, nous allons revenir avec la guerre des cinq empereurs. Fascinant. Eh bien, nous retrouvons que avec par exemple l'égyptologue, ou nous devons plutôt l'appeler le nubiologue, hein, ou qui essaie un peu de développer ce qu'on appelle la nubiologie venant de la Nubie, un chercheur qu'on appelle Charles Bonnet, qui est un Suisse, qui fait beaucoup de fouilles au niveau du Soudan, a découvert au fait qu'en Nubie au Soudan il y a plusieurs bâtiments qui ont été découvert, enseveli par le temps et le désert, par le sable. Il a découvert certainement des salles qui ressemblent à l'hypostyle de Karnak. Et ces salles semblent avoir été construites avant Karnak. Et lorsqu'on en Charles Bonnet fait des recherches par rapport à ce qui se passe au fin fond de l'Afrique, par exemple en Ouganda, on se rend compte qu'il y a des habitations ou par exemple le palais de la reine dans l'Ouganda, dans les anciens royaumes au niveau de l'Ouganda, on a des anciennes bâtisses faites ou construites à peu près comme l'hypostyle de Karnak, avec plusieurs espèces de pylônes en bois cette fois-ci. Et Charles Bonnet, dans l'une de ses conférences, il disait qu'il y avait un explorateur qui était allé en Ouganda, dans ses anciens royaumes, et qui avait vu le palais de la reine. Et avant d'entrer, lorsqu'il entre dans le palais de la reine, il se rend compte que il y a à l'intérieur plusieurs piliers, une espèce de forêt de piliers qui ressemble un peu à Karnak. Et il demande au roi, mais pourquoi est-ce qu'il y a tous ces piliers? Le roi disait, c'est le temple de la reine, c'est comme ça qu'il est constitué. Évidemment, ce sont des choses, des secrets qu'on ne peut pas dévoiler comme ça. Mais on se rend compte que dans la culture de l'Ouganda, l'Ouganda qui est très proche de la RDC, qui n'est pas loin des peuples qu'on appelle les Mangbetu, en sont ceux, les peuples là du Congo qui ont les crânes allongés, exactement comme dans la 18e dynastie avec Akhenaton, qui a le crâne allongé, ses filles ont le crâne allongé, sa femme a le crâne allongé. Donc on voit que cette culture vient du sud, alors que la culture de venir prendre ce qu'il y avait au cœur de l'Afrique et remonter là-bas avait commencé avec Hatshepsut. Donc vous voyez les liens, que beaucoup de choses commençaient déjà à revenir pour réétablir l'esthétique et la culture et l'essence même africaine après que les envahisseurs soient passés. Et donc l'architecture de Karnak pourrait aussi bien venir du sud, aussi bien comme les crânes allongés de Akhenaton qui vient bien après Hatshepsut. On voit aussi que les postiles de Karnak pourraient venir des cultures qu'il y avait au niveau de l'Ouganda, car on retrouve ça au niveau du Soudan, et du Soudan qui a pu passer avec la 18e dynastie. Et on connaît les rapports, beaucoup de rapports qu'il y a eu, par exemple, entre Toutmosis III aussi, avec Toutmosis III qui a régné tout juste après Hatshepsut. Toutmosis III qui a venu aussi s'établir. Il y a eu des conflits entre la Nubie et l'Égypte sous Toutmosis III. Et après avoir réenvahi cet endroit-là, on peut se rendre compte qu'il y a eu des échanges culturels, architecturaux, et ce qui était en Ouganda a pu passer au Soudan, à Kerma, et de Kerma, le Soudan donc, ou la Nubie, ça a pu passer en Égypte ancienne, d'où on voit ces fameux piliers. Donc, lorsque l'on dit, non mais en Afrique, il n'y a pas ces choses, non, il y en a, c'est là, la source est africaine. Aussi bien sur le niveau de l'architecture, de la pensée, des symboles ou du symbolisme, ça vient de l'Afrique. On ne peut pas comprendre l'Égypte ancienne si on ne comprend pas les langues africaines ou les cultures africaines. Comme je l'ai dit, le professeur Leclan l'a lui-même dit, que pour comprendre l'Égypte ancienne, il faut s'intéresser aux masques africains ou dans les mythes Dogon par exemple, ou dans les masques Sénoufo, c'est là où on comprend ce qu'est l'Égypte ancienne. Donc ça, c'est une grande parenthèse pour parler un peu de l'apport de l'Afrique profonde dans cette civilisation égyptienne qui nous paraît difficile à imaginer parce que nous sommes bloqués par l'information que nous voyons maintenant. Mais il faut se dire que le temps passe, c'est une civilisation qui passe de milliers d'années, et malheureusement l'orgueil humain veut nous faire croire que nous sommes les premiers en tout, alors que la civilisation a commencé depuis belle lurette. Donc cette parenthèse était au fait pour parler de l'hypostyle de Karnak, pour dire que c'était très coloré. Nous revenons maintenant, nous remontons. L'hypostyle était très coloré, comme à Rome où nous étions, que nous avons quitté un moment, nous avons un peu quitté Rome pour aller en Égypte, mais nous repartons rapidement à Rome. Que Rome, à cette époque-là, de l'année des cinq empereurs, ou la guerre des cinq empereurs, était une région très métissée, très diverse, très mélangée, des noirs, des métis, des blancs, tout ça, il y en avait là, à cette époque-là. Et les œuvres d'art qu'ils faisaient étaient même très colorées, que ce soit les vases, que ce soit les œuvres d'art. C'était très divers. Quand on s'intéresse réellement à ce qui se passait à cette époque-là, quand on visite les musées et qu'on regarde réellement l'art, comment elle était, on verra beaucoup de noirs, de morts, de têtes qui étaient purement africaines. Mais évidemment, dans les documentaires, on passe toujours ça sous silence. Il faut montrer que c'était simplement européen. Vous savez pourquoi. Donc là, je voulais placer un peu le décor de cette Rome africaine dont on parle, que les historiens connaissent très bien. Nous étions donc arrêtés à l'assassinat de Commode qui est le fils de Marc Aurel qui était un suivant de Zénon de Kition, c'est-à-dire il appréciait la philosophie de Zénon de Kition. On essaie un peu de faire un résumé sur tout ce qu'on a dit déjà auparavant. Marc Aurel qui donc suit ce que Zénon de Kition fait. Zénon de Kition qui était un noir phénicien qui a développé l'école qu'on appelle le stoïcisme. Eh bien, Marc Aurel qui enfante Commode sera tué parce que, étant tyrannique, le peuple ne voulait plus de lui, ou du moins l'élite romaine l'a assassiné, étranglé le jour du nouvel an, car ils en avaient assez. Il s'est dit, ah, en 193 en tout cas, on veut passer à autre chose. Et après Commode, c'est là, nous l'avons dit, que commence l'année des cinq empereurs, que commence la guerre des cinq empereurs. Qui est le premier candidat dans cette tragédie qui j'allais dire gréco-romaine, mais je dirais juste une tragédie? Eh bien, nous avons cinq personnages principaux dans cette tragédie là, dans cette guerre, dans cette épopée là. Nous avons Pertinax, Didius Julianus, difficile à prononcer celui-là. Pessinus Niger comme troisième protagoniste. Claudius Albinus. Et enfin, celui qui nous intéresse ici, Septimius Severus. Je reprends donc cinq personnages clés. Pertinax, Didius Julanus, Pessinus Niger, Claudius Albinus, Septimius Severus ou encore Septime Sévère. Ces cinq personnages vont se disputer le trône de Rome. D'où les cinq empereurs. Ces cinq personnages vont se proclamer pratiquement au même moment, tous empereurs de Rome. Et ça nous rappelle un peu ce qui se passe aussi en Afrique. Quand il y a des coups d'État, on dit, il y a un président qui se lève, deux présidents qui prêtent serment au même moment. Il dit, c'est moi le président. L'autre dit, c'est moi le président. Donc, on connaît ce genre de situation-là, même maintenant. Donc, ces cinq empereurs se disputent le trône, mais cela va se faire graduellement. Le premier à prendre officiellement le pouvoir, c'est Pertinax, qui est à cette époque-là proconsul de l'Afrique. Proconsul, ça veut tout simplement dire gouverneur. Donc, Pertinax est gouverneur de l'Afrique, car l'Empire romain comprenait, comme on a dit, le bassin méditerranéen, qui comprenait l'Afrique, qui comprenait un peu le Moyen-Orient et une partie de l'Europe. Pertinax prend le pouvoir et se dit, je suis l'homme de la situation, commode est parti, c'est un nouveau règne qui va commencer. Et, comme on l'a dit, certains conspirateurs qui avaient fomenté le meurtre de Commode vont supporter Pertinax pour qu'il se mette au pouvoir. Le problème avec Pertinax, c'est qu'il va négliger l'armée. Il va pas se rendre compte que Rome est une puissance militaire. Et si vous vous rappelez l'introduction de Septimius Severus, qui était un visionnaire hors pair et qui avait compris les choses par rapport à l'armée, et bien Pertinax, lui, n'avait pas compris. Lui pensait que c'était juste son charisme qui allait conduire Rome vers un horizon beaucoup plus glorieux. Car Pertinax, lui, par contre, au contraire de Commode, était un homme très discipliné. Je présume qu'il pouvait être stoïcien, je ne peux pas confirmer, mais du moins, il était plus discipliné. Marc Aurèle est compris comme un homme très discipliné, Commode, un indiscipliné, très émotif, carrément tyrannique, mais Pertinax est beaucoup plus posé, beaucoup plus discipliné que son prédécesseur. Malheureusement, pour lui, il ne prend pas soin de l'armée. Et très vite, il ne respecte pas certaines promesses faites, par exemple, à ce qu'on appelle la garde prétorienne. La garde prétorienne est cette armée romaine-là qui était carrément en charge de tout. C'était carrément le service secret ou le service d'intelligence et de combat de la Rome. Donc, il fallait avoir un certain contrôle sur eux. C'est eux vraiment qui maîtrisaient et dirigeaient les choses, tapis dans l'ombre. Pertinax, donc, néglige de considérer la garde prétorienne comme une menace et très vite ceux-ci vont se débarrasser de lui, ils vont le zigouiller et il perdra la vie bêtement parce qu'il n'a pas su voir l'avenir. Lorsque l'élite romaine se débarrasse de Pertinax, donc l'un des cinq empereurs, on en avait donc cinq, donc un tombé, quatre reste dans la course au pouvoir. L'élite romaine, les politiciens et une partie de la garde prétorienne vont chercher celui qu'on appelle Didius Julanus. Oh, c'est difficile à prononcer celui-là. Donc, ils vont prendre celui-là et lorsque Pertinax meurt, au fait, ils vont vendre le pouvoir. L'élite romaine vont mettre aux enchères le trône du pouvoir, donc ils vont se passer le mot entre décideurs. Il faut dire que la Rome était, comme nous l'avons dit, un empire et il y avait des généraux et des gouverneurs par-ci par-là dans les différentes provinces romaines. Et le message est envoyé que le pouvoir est vacant, mais il est aux enchères. Alors, bienheureux étaient ceux-là qui étaient près de Rome, car ceux-là pouvaient justement se présenter devant ceux-là qui mettaient le pouvoir à prix et payer. Nos autres protagonistes étaient beaucoup plus loin. Nous parlions de Pessinus Niger, de Septimius Severus et de Claudius Albinus. Eux étaient beaucoup plus loin. Didius Julanus se présente donc et achète le trône de Rome. Comme nous l'avons dit, ils avaient mis ça aux enchères, ces élites l'avaient mis le pouvoir romain aux enchères. Il achète donc Didius Julanus a acheté le pouvoir, il a acheté le trône. Il a corrompu, il a acheté le pouvoir car il était mis aux enchères. Il devient donc empereur de Rome. Mais nous citons que Didius Julianus était d'abord proconsul d'Afrique, donc gouverneur, était aussi gouverneur d'Afrique, comme Pertinax. C'est beaucoup. Voilà pourquoi on parle de Rome africaine, parce que ce moment-là, c'était ceux qui venaient d'Afrique qui avaient le pouvoir. On voit que c'est ceux qui venaient de là qui avaient le pouvoir, et c'est là où il y avait le plus d'influence. Et voilà pourquoi vous voyez que lorsqu'il y a des villes qu'on appelle les petits Magna en Libye ou au nord de l'Afrique, il y a même des coliséums que l'on voit, des stades. Ça montre cette influence romaine qu'il y a eu là déjà. Donc Didius achète le pouvoir, car je vais carrément me limiter à donner son prénom, parce que son nom de famille, il est assez difficile à prononcer. Donc je vais me limiter seulement à son prénom. Pendant que Didius est au pouvoir, Septimius Severus, lui, en fait, 12 jours après que Pertinax, celui qui a succédé donc à Commode, 12 jours après que Pertinax ait été assassiné, Septimius Severus, le général noir, donc, qui nous intéresse, d'origine libyenne, africaine, se proclame lui-même empereur, comme Pessinus Niger et Claudius Albinus. Donc, nous avons dit que nous avions 5 empereurs. Un est déjà tombé, Pertinax, qui a été assassiné. Et reste en course, donc, Didius, qui déjà, lui, a acheté le pouvoir, donc, qui est au trône. Et 3 prétendants, donc, Pessinus Niger, Septimius Severus et Claudius Albinus. Didius, donc, prend le pouvoir, prend le trône, commence à gérer, mais lui aussi a des difficultés avec l'armée, surtout la garde prétorienne. Il essaie tant bien que mal de gérer l'empire, mais il ne tient pas non plus ses promesses, à savoir prendre soin de l'armée et de gérer les affaires courantes comme il le faut. Et d'autant plus que, à ce moment, Septimius Severus, comme nous l'avons dit 12 jours après, lui se proclame comme empereur, mais au niveau de Rome. Septimius était dans une province romaine, mais Didius, lui, était déjà au niveau du centre du pouvoir, beaucoup plus proche de la capitale. Et il avait déjà le pouvoir avec l'accord du Sénat. Mais que nenni, Septimius Severus refuse, lui décide qu'il est le nouvel empereur, aussi bien que Pessinus Niger ou Claudius. Mais on peut se rendre compte que Septimius avait une détermination un peu plus poussée. D'où Didius, reconnaissant que la menace était beaucoup plus forte au niveau de Septimius, car sa province était plus proche de sa capitale. D'où il déclare rapidement que l'ennemi à abattre en premier lieu, la première menace de son pouvoir, c'est Septimius Severus, car il était beaucoup plus près de sa capitale. Alors, il met en place 3 stratégies pour contrecarrer Septimius Severus. Il envoie sa garde prétorienne pour aller combattre celle de Septimius Severus qui était un général aussi, mais qui est devenu après gouverneur d'une province. Didius met en place 3 stratégies. Il envoie les troupes pour combattre Septimius Severus. Il envoie un émissaire pour essayer de corrompre ou du moins de convaincre Septimius d'arrêter sa rébellion, sa révolte et de le rejoindre. Donc on peut voir ici que Didius utilise la stratégie de la carotte et du bâton. C'est-à-dire, on envoie des troupes pour essayer de mater, mais on envoie aussi une carotte, on tend une perche pour essayer du moins de trouver une solution pacifique. Et Sun Tzu, si je prononce bien, qui a écrit L'Art de la Guerre, qui a profondément inspiré Robert Greene dans son livre The 33 Strategies of Law, qui nous inspire ici, hein. Nous ne voulons pas cacher nos sources. Nous disons très bien que cette série d'émissions est inspirée par le livre de Robert Greene. Les principes sont issus de ce livre, mais les illustrations viennent de notre recherche. Nous, c'est ce qui nous apporte de nouveau. C'est le point de vue africain, car les illustrations dont nous parlons ici ne sont pas dans ce livre. Donc, ne dites pas, oh, mais Eric, tu nous avais dit que j'ai lu le livre, je l'ai acheté, je n'ai vu aucune des illustrations dont tu parlais. Non, nous prenons les principes de ce livre, mais les illustrations sont ce que nous avons cherché et trouvé, des illustrations africaines. Donc, ce dont nous parlons ici, vous les trouverez difficilement dans le livre. Évidemment, si le besoin en est, on pourra peut-être produire quelque chose dessus et amener aussi un point de vue guerrier, aussi longtemps que les auditeurs voudront soutenir. C'est-à-dire faire une œuvre aussi écrite par rapport à ça, ça dépendra de si la demande est là. Pour l'instant, on le fera de manière orale. Bon, on va dire, les Africains, toujours l'oralité, où est l'écrit? Bah, moi, j'ai déjà écrit un livre, et puis quand on met en live supporté, Oh, c'est-à-dire, mon frère, je sais pas, on m'a pas encore payé. Bon, bref, bon, pour dire que nous, on fait tout, on est dans l'oralité, dans l'écriture. Je faisais que passer. Donc, on disait donc ici que Septimus Severus devient donc l'ennemi juré de Didius. Le clash commence là. Bataille des cinq empereurs est déjà à sa à, non pas son apogée, mais fait déjà fait déjà c'est déjà tout feu tout flamme quoi. Donc un empereur est déjà tombé, il en reste plus quatre. Maintenant c'est la bataille des quatre empereurs. Un est déjà tombé. Alors nous disions que Didius avait utilisé trois stratégies. Il envoie des armées pour combattre celle de Septimius Severus ou Septime Sévère. Il envoie un émissaire pour essayer de convaincre Septimus d'arrêter sa conquête du pouvoir. Et troisième stratégie, plus sournoise, Didius envoie un assassin. Hein? Il envoie un assassin pour tuer Septimus Severus dans le secret. Donc trois stratégies. La guerre, l'émissaire et l'assassin. Septimus Severus étant avisé, étant meilleur stratège que Didius, général de formation, fait l'école africaine et romaine, inspiré par Hannibal de Carthage et certainement par les anciens pharaons, décide de contre-attaquer, aussi bien sur le terrain militaire qu'en convainquant l'émissaire que Didius envoie vers lui, en le convainquant, non, de le rejoindre. Donc, Septimus Severus parle avec l'émissaire, lui dit, tu as tout intérêt à me suivre, plutôt qu'à suivre Didius qui t'envoie. Je ne sais pas combien il te paye ou il te propose, mais regarde, carte sur table, c'est moi qui ai l'avantage. Évidemment, là, je suis en train de caricaturer, je suis en train un peu d'imaginer. Mais on peut facilement se décrire un Septimus Severus en train de convaincre cet émissaire qui avait été envoyé en fait pour le corrompre ou du moins le convaincre d'arrêter. J'imagine que c'était certainement un homme très avisé, un intellectuel qui était maître dans la rhétorique et qui avait été choisi soigneusement pour convaincre Septimus Severus par le sophisme ou autre technique gréco-romaine de l'époque. Mais ça ne marche pas. Septimus Severus parvient à convaincre ce monsieur de le rejoindre. Donc la stratégie de Didius échoue déjà à ce moment-là. Quant à l'assassin, eh ben, il se fera tuer lui-même. Donc les trois stratégies de Didius ne fonctionnent pas. Et Septimus Severus enverra ses troupes, marchera sur Rome et se débarrassera de Didius Julianus en prenant le pouvoir. Lorsque la garde prétorienne se rend compte que tout est perdu, que Didius n'avait pas les moyens de sa politique, qu'il n'avait pas les épaules pour avoir l'envergure de l'aigle romain, à savoir diriger l'empire, il se fera tuer, comme Pertinax, comme Commode, par les conspirateurs, probablement la garde prétorienne. Avant même que Septimus Severus le capture, le déniche, il se fait déjà tuer. Déjà, le pays, la capitale était tombée, et ben, les conspirateurs et la garde prétorienne s'en sont chargés, et Didius Julianus sera tué. Cinq empereurs, si vos calculs sont bons, il nous en reste combien? On avait dit cinq, combien sont déjà tombés? Deux, donc Pertinax est tombé, Didius Julianus est tombé. Qui prend le pouvoir? Petit quiz, qui prend le pouvoir? Qui prend le pouvoir? Qui nous suit? Qui nous suit? Qui nous suit? Septimus Severus, gagné. Donc il nous reste maintenant 3. Hein, 5 moins 2, 3, facile, non? C'est de l'arithmétique. Donc Pessinus Niger, Septimus Severus et Claudius Albinus. Ces noms sont assez intéressants. On dit Pessinus Niger. Ça vous rappelle quelque chose, non? L'Afrique, il y a un pays qui s'appelle Niger. Albinus. Albinos. C'est pas un hasard. Eh oui, Claudius Albinus était un noir. Albinos. Pessinus Niger était aussi un Africain, car le mot Niger était un qualificatif à l'époque aussi qui montrait qu'on était noir. Très souvent, dans l'époque médiévale, ou antique surtout, vous trouverez beaucoup de noms, que ce soit à Rome et même en Europe, ou ailleurs en Europe. Rome, c'est en Europe, oui. Et ailleurs en Europe, même en Bretagne, car la Bretagne était une des provinces que l'un des généraux dirigeait. Donc il y avait beaucoup de noirs à cette époque. Et lorsque vous lisez le livre African Presence in Early Europe, c'est-à-dire la présence africaine en Europe, ou la présence très précoce des Africains en Europe, on parle de cette présence-là à travers la préhistoire, à travers l'Antiquité, à travers le Moyen-Âge, et on parle notamment de la chevalerie africaine, des chevaliers noirs qui existaient en Europe, même en Bretagne. Ça peut faire sourire, ça peut surprendre, mais les armoiries existent. Les armoiries, les fameux Maures, la famille Moreau, Morel, ont des ancêtres noirs qui venaient en fait de l'Afrique. C'était ces chevaliers qui étaient arrivés là. Il y a beaucoup d'images. En faisant des recherches sérieuses, on trouve les armoiries, les héraldiques, les chevaliers avec leur phénotype noir évidemment, et leurs armures, leurs épées, leurs cavaliers dans des guerres. Évidemment, certains disent que non, c'était des esclaves qu'on avait simplement pris pour amener, pour combattre. Non, il y avait des nobles, il y avait des rois, il y avait des princes africains qui habitaient là. Et nous rappelons toujours que le mot esclave, qui vient de slave, slave, qui vient de slave, slave, sont les gens qui habitaient en Europe. Et ce sont ces populations qui étaient prises par les Arabes et les Maures, surtout les femmes, pour être vendues quand les Arabes avaient envahi l'Europe. Donc le mot slave, esclave, esclavonie, slave, slave, ce sont des mots qui ont leur origine dans le fait que des populations européennes ont été déportées et ont été mises sous le joug d'autres populations. Donc c'est ça en fait l'ironie de l'histoire. On dit aux autres, on les voit comme des esclaves, alors que le mot esclave, il vient d'où? Les gens ne font pas la recherche pour savoir d'où vient le mot esclave et qui a été esclave avant l'autre. Et comment ils ont pu changer leur situation, et donc la situation peut être changée. Donc lorsqu'on ne voit pas aux origines des mots, eh bien il y a des choses que l'on ne comprend tout simplement pas. Alors nous disions que Didius Julianus perd le pouvoir. Il m'était promis de plus prononcer ce last name, ce nom de famille, mais ça revient encore. Bon, on se limite à Didius, hein, c'est plus facile. Donc Didius tombe, meurt, Septimius Severus prend le pouvoir, mais il est confronté à deux autres ennemis, à savoir Pessinus Niger et Claudius Albinus. Les deux sont des Africains. Donc tous ces trois personnages sont africains, sont noirs. Hein? Pessinus Niger qui était africain, Claudius Albinus qui est un albinos. Donc trois généraux charismatiques puissants qui veulent la tête et le trône de Rome. Donc ici on est vraiment dans un combat de pouvoir qui n'a rien à envier à Game of Thrones, hein? Rome et les dragons, comme je l'ai dit une fois. Mais ici maintenant c'est la stratégie qui va jouer, et après on va aller sur les leçons à tirer de cette épopée là. Alors Septimius Severus se rend compte qu'il a deux adversaires à abattre, à confronter. Il a pris le trône, il s'est débarrassé de Didius, mais il y a Pessinus Niger et il y a Claudius Albinus qui marchent contre lui. Or Claudius Albinus était déjà prêt. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben ici il va mettre en exécution l'une des lois de Robert Greene dans le livre. Je vais pas aller en ordre parce que ça serait un peu ne pas suivre l'histoire. Pour être en phase avec l'histoire et le livre, je vais un peu permuter les lois du bouquin pour être en phase avec la chronologie avec laquelle je raconte l'histoire de la guerre des cinq empereurs. Alors, ici, lorsqu'on regarde la loi 6, parce que nous avons déjà vu la première loi, qui disait que faites la guerre, trouvez vos ennemis, et faites la guerre à vos ennemis, et le premier ennemi, c'est soi. Ensuite, il faut définir aussi l'ennemi extérieur. Quel est l'ennemi extérieur que l'on a? Et je conseillais un livre intéressant, c'est Le pouvoir des habitudes. Un livre très intéressant qui permet de changer les habitudes, c'est-à-dire vous pouvez identifier quel est l'ennemi qui est en nous, l'ennemi qui est en vous, l'ennemi qui est extérieur, quelle est l'habitude que vous avez qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. C'est ce livre-là qu'il faut prendre et étudier. Mais nous, ce que nous faisons, c'est apporter les contextes africains qui vous conduisent vers ces objectifs-là. C'est juste ça que nous voulons faire. Donc la loi 6 de Robert Greene dit ceci: divisez vos forces. Septimius Severus se rend compte qu'il a deux ennemis à combattre, non simple, et pas simplement deux, car il y a aussi la grogne sociale et le malaise qu'il y a au niveau de Rome. Comme vous êtes déjà rendu compte, il arrive dans un contexte où les trois derniers empereurs ont été tués. Les trois derniers empereurs ont été tués, et je dis bien assassinés. Donc on arrive dans un milieu où la suspicion règne, où la menace règne, où les complots se font à tour de bras, derrière chaque pilier, derrière chaque taverne, il y a complot et on peut se faire massacrer, on peut se faire tuer à tous les instants. Et vous vous rappelez que Jules César lui-même, qui avec sa fameuse phrase, et toi aussi mon fils Brutus, il a été trahi par son fils Brutus, du moins selon ce qu'il en est dit. Rome était donc un pouvoir assez mesquin. On pourrait se demander pourquoi les gens voulaient avoir le pouvoir dans cet empire là, car il y a tellement de traîtrise, tellement de méchanceté que il fallait vraiment être soit stupide, soit hyper courageux pour vouloir diriger un tel empire, car c'était tellement mesquin, le poison y régnait, les conspirations, les trahisons. Il fallait vraiment en avoir pour pouvoir régner dans ce pays là, dans cet empire disons. Alors Septimius Severus arrive là, hyper ambitieux, ayant à combattre Pessinus Niger et Claudius Albinus, mais aussi ce qui se passait dans la Rome, dans le nouveau trône qu'il veut les prendre, parce qu'il se rendait compte que les trois derniers empereurs ont été assassinés. Ça pourrait lui arriver à tout moment. Il y avait la garde prétorienne qui était là, qui apparemment était derrière les trois derniers assassinats. Il y avait le Sénat qui était là, qui complotait de manière terrible, si je peux dire ça. Et peut-être même des menaces de sa propre famille. Alors face à ce nid de serpent dans lequel il s'assit, Septimius Severus met en exécution la loi 6 du livre de Robert Greene, c'est-à-dire divisez vos forces, parce qu'on peut pas mener toutes les guerres en même temps, on peut pas tout faire en même temps. Quand on a beaucoup de challenges dans la vie, on peut pas tout faire en même temps. Il faut diviser ses forces. Et la loi numéro 3, car aujourd'hui nous allons couvrir la loi 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait la première l'autre fois. Cette fois, on va faire la loi 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne vais pas aller en ordre de ces lois comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut, ça doit matcher, ou ça doit être en musique ou en parallèle avec la chronologie de l'histoire de Septimius Severus. Sinon, ça risque d'être un peu confus. Donc, la loi 6 nous dit « divisez vos ordres ». Et la loi 3 dit « au cœur de la tempête, gardez votre tête froide ». Car Septimius Severus était vraiment au cœur d'une tempête. Deux guerres, deux généraux qui veulent sa peau. Et dans un contexte géopolitique extrêmement compliqué, complexe, où tout le monde voulait être César, parce que César c'est le titre d'empereur. Tout le monde voulait être César, tout le monde voulait être empereur, roi. Et tout le monde pouvait se trahir. La garde prétorienne était là pour le tuer au moindre faux pas. Les sénateurs étaient en train de comploter. Le peuple aussi qui était en train de, se plaindre du fait que tous les empereurs faisaient que mourir. Et encore, on est à peine au début. Et c'est en une année, parce que Commode est mort le jour du nouvel an en 193. Commode est mort. Pertinax ensuite meurt. Donc, en quelques mois, en seule une année, trois Césars empereurs sont morts. C'est un peu comme si vous avez en une année, trois présidents meurent. Vous avez un président qui est assassiné, on en met un autre, il est assassiné, on en met un troisième, il est assassiné. C'est extrêmement grave. C'est comme ça qu'on doit un peu imaginer la chose. Imaginez déjà que quand un président est mort, c'est déjà extrêmement grave. Alors imaginez qu'en une année, vous avez trois présidents qui sont assassinés. Et pas morts de manière naturelle, trois présidents en une année qui sont assassinés. Et donc vous avez au moins quatre présidents en une seule année. Ça, c'est extrêmement... Imaginez un peu le contexte pour pouvoir bien comprendre dans quel environnement on est à cette époque-là. Donc, Septimius Severus donc se dit, loi 3, au cœur de la tempête, gardez la tête froide, et c'est qui est vraiment une idée du stoïcisme, parce que le stoïcisme, c'est ça, au fait. C'est de pouvoir, face à l'adversité, voir ce qui est logique et ne pas laisser l'émotion nous envahir. Comme nous l'avons dit, l'émotion africaine n'est pas à détruire. Nous n'avons pas à devenir des robots ou à devenir ce que nous ne sommes pas. L'émotion africaine, il faut la prendre dans le contexte de l'intelligence émotionnelle. C'est comme ça qu'il faut l'exploiter. Hein? Et maintenant, le stoïcisme nous aide dans le sens de la logique. Il y a des points qu'il faut. On ne veut pas dire que le stoïcisme c'est l'ultime philosophie à suivre. Non, il y a des points intéressants. Il y en a aussi qui sont à débattre. Il y en a aussi qui sont intéressants. Et voilà pourquoi nous avons commencé avec Zénon de Kition, car il a une incidence sur tout ce qui se passe dans la guerre des cinq empereurs. Donc on peut voir que dans l'étude, dans l'école romaine, dans la formation des élites romaines, il y avait cette qualité disciple de Zénon, le stoïcisme qui était déjà bien enseigné dans les écoles militaires, du moins romaines, ou du moins dans l'élite romaine. C'était des ouvrages qui étaient lus, et beaucoup d'empereurs, de généraux surtout, en ce sens, se sont inspirés, dont le fameux empereur Marc Aurèle, et maintenant aussi, du moins dans son comportement, Septimius Severus aussi fait preuve de sang-froid, ce sang-froid que nous devons avoir, le sang-froid que le stoïcisme nous enseigne ici. Et c'est par ça, par ce stoïcisme-là, par ce sang-froid, que Septimius Severus passe lentement de la loi 3 à la loi 6. La loi 3, c'est son état de pensée, et la loi 6, c'est son action. La loi 6 nous dit « divisez vos forces ». Comment le fait-il? Il passe une alliance avec l'un de ses ennemis potentiels, Claudius Albinus. Claudius Albinus, qui est un albinos, nous l'avons dit, était un potentiel prétendant au trône. Mais il va le voir et il signe un traité avec lui. Il dit, voilà, nous avons des divergences, mais moi, je te propose de te faire César. Je te cède le pouvoir et je reste général. Je ne te cède pas 100% du pouvoir, mais nous avons une entente, qui n'est pas permanente, mais une entente provisoire, où tu es César, tu as le pouvoir, et moi, je vais combattre Pessinus Niger. Car si nous nous combattons tous, nous allons tous nous détruire, et finalement, qui sont gagnants là-dessus? C'est pas nous, c'est peut-être la garde prétorienne, c'est peut-être les sénateurs qui sont en train de comploter. Soyons plus matures qu'eux, car trois empereurs, ça j'imagine, hein, sont déjà morts avant nous. Quatre, s'il faut en compter Marc Aurèle. Et qu'est-ce qui ne te dit pas qu'en allant là-bas, nous serons tous tués? Moi, au contraire, je te donne le pouvoir, je te cède le pouvoir et je m'occupe de Pessinus. Mais si on se fait la guerre, nous tous, on va tous perdre. Et ainsi, j'imagine, Claudius Albinus accepte le pouvoir, un traité est signé entre entre Claudius Albinus et Septimius Severus, qui fait que Septimius peut maintenant se focaliser à 100% sur l'élimination de Pessinus Niger, et il a moins de soucis avec Albinus, qui lui a ce qu'il voulait aussi, de le pouvoir. Mais il faut citer que lorsque Commode fut tué, la garde prétorienne et le Sénat, ou du moins certains élites de Rome, avaient proposé le pouvoir à Albinus, mais il avait refusé. Il n'était pas intéressé par ça à cette époque-là. Mais après, il s'est vite laissé séduire par le pouvoir. Alors, Septimius, super stratège, dont le nom en fait Lucius Septimius Severus, arrive à convaincre Claudius d'avoir une entente, de se combattre, faisant plutôt alliance. Je te cède le pouvoir de Rome et moi, je m'occupe de Pessinus pendant ce temps-là. Et Albinus accepte donc. La guerre donc va se faire entre deux hommes, deux idées, deux idéologies, Septimius Severus contre Pessinus Niger. Ils vont envoyer leurs hommes au front. La bataille va faire rage. Mais quelle sera l'issue de la guerre entre ces deux empereurs? Eh bien, la suite sera au prochain numéro. Bye bye!